Bonjour à chacun et à chacune. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir la parole avec vous pour encore une fois prendre un temps particulier à l'écoute de notre Seigneur. Et avant d'ouvrir nos Bibles, peut-être que vous le savez, mais les Français ont été pendant longtemps les plus gros consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au monde. Et nous sommes toujours dans le peloton de tête actuellement. Près de 150 millions de boîtes sont prescrites chaque année et un Français sur quatre en aurait déjà pris. Alors mon propos n'est pas du tout de pointer du doigt cette situation, car la dépression est une véritable maladie pour laquelle il convient de consulter son médecin, bien entendu. Mais force est de constater que de plus en plus de personnes sont confrontées à cette maladie. En tant que chrétiens, nous pouvons aussi être touchés par la dépression, bien entendu. Mais nous courons un risque encore plus important, d'être touché par une forme de dépression bien particulière que je nommerais la dépression ou le découragement spirituel. Il s'agit d'un état où notre âme est abattue, où nous sommes fortement découragés de notre foi. Peut-être que vous avez déjà vécu une telle dépression dans votre vie spirituelle. Et peut-être même que vous la vivez actuellement. Vous êtes comme vide, complètement abattu, avec le sentiment d'être abandonné par Dieu même peut-être. La Bible n'élude pas du tout ce sujet. Bien au contraire, elle l'évoque, et notamment dans le livre des Psaumes, qui sont des chants composés par des hommes, des psalmistes, qui pour certains d'entre eux étaient vraiment découragés au moment où ils ont écrit ces chants, dont l'âme était véritablement abattue par l'épreuve qu'ils traversaient. Nous continuons ce matin notre série de prédications estivales sur le livre des Psaumes. Et aujourd'hui donc ce n'est pas un seul psaume sur lequel je vous propose de méditer, mais deux psaumes pour le prix d'un. Il s'agit des psaumes 42 et 43. Alors bien qu'ils soient séparés dans nos Bibles, pour de nombreux commentateurs, ces deux psaumes constituent à l'origine un seul et même psaume. Et cela pour différentes raisons. D'abord, dans plusieurs manuscrits hébreux, on retrouve ces deux psaumes rassemblés en un seul. Le psaume 43 est dépourvu de titre, ce qui est inhabituel, surtout dans cette section des psaumes. On retrouve aussi exactement le même refrain au psaume 43 qu'au psaume 42. Il y a aussi de très grands rapports entre ces deux psaumes qui furent probablement composés dans les mêmes circonstances. Nous allons donc méditer sur les deux psaumes ensemble comme s'ils n'étaient qu'une seule unité. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles et donc de lire les psaumes 42 et 43 à la suite. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Quand une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattue mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsehar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me guident et me conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alors, pour commencer, deux éléments de contexte qu'on retrouve au verset 1 du psaume 42. D'abord, l'expression au chef de chœur signifie tout simplement que ce psaume a été confié au conducteur de l'adoration pour le culte public juif. Ce psaume était chanté par plusieurs personnes pour adorer Dieu. Deuxièmement, il est ensuite écrit que ce psaume a été composé par les descendants de Corée. Qui est ce fameux Corée? Corée est un homme qui, avec quelques autres, s'opposa au leadership de Moïse lors de l'exode du peuple d'Israël après la libération de l'esclavage égyptien. Il fut l'objet d'un terrible jugement de Dieu à cause de sa révolte, puisqu'il est écrit en Nombre 16, versets 32 à 33, que la terre souffrit et les engloutit, eux et les leurs, ainsi que tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivants dans le séjour des morts avec tous les leurs, et la terre se referma sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent au milieu de l'assemblée. Descendant de cet homme semble donc ensuite avoir eu à cœur de faire oublier la faute de leur ancêtre par un redoublement de zèle au service de l'Éternel. Ils ont eu par exemple pour fonction de garder les portes du sanctuaire. Mais c'est surtout dans l'organisation et la direction de la musique sacrée que les descendants de Corée ont eu un rôle très important. Ils formaient un corps de chanteurs auquel David lui-même avait confié la direction de la musique sacrée. Et ils ont composé pas moins de 11 psaumes que nous retrouvons dans la Bible. La structure de ce psaume se repère facilement, avec ses trois strophes accompagnées du même refrain qui se répète à chaque fois. Chacune des strophes renferme une prière dans laquelle le psalmiste exprime d'abord un profond abattement. Il s'agit de trois grands soupirs de l'âme. Et ces trois strophes se terminent à chaque fois par la même parole d'espérance apportée par le refrain. Au sein de sa déprime, le psalmiste veut tenir ferme dans son espérance en Dieu. Nous allons donc, dans un premier temps, méditer sur les trois strophes de ce psaume. On voit tour à tour l'âme du psalmiste assoiffée de Dieu, du verset 2 au verset 5, puis recherchant Dieu, du verset 7 au verset 11, et enfin réclamant justice à Dieu, du verset 1 au verset 4 du psaume 43. Avant ensuite de nous pencher sur le refrain, qu'on retrouve verset 6, verset 12 et verset 5, qui contient, je crois, de grandes leçons pour lutter efficacement contre le découragement spirituel. D'abord, la première strophe, et je vais la relire au verset 2 du psaume 42. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Cette première strophe débute par une comparaison très forte de sens entre une biche assoiffée, qui cherche tant bien que mal un cours d'eau, et l'âme de l'auteur de ce psaume, qui est assoiffée de Dieu. Ce que les cours d'eau sont pour cette biche, un besoin primaire, indispensable, la présence de Dieu l'est aussi pour l'âme du psalmiste. L'image de cette biche assoiffée qui soupire exprime l'intense dessèchement spirituel qu'éprouve le psalmiste à ce moment-là. Loin de Dieu, il est à l'agonie. Dieu lui est aussi indispensable que l'eau. C'est de Dieu que son âme a soif, car personne d'autre ne peut le combler pleinement. Le psalmiste écrit au verset 3 qu'il a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il a soif du Dieu vivant et non pas de n'importe quelle idole inerte. Ce n'est qu'avec un Dieu vivant qu'il peut véritablement entrer en communion. De toute évidence, au moment où ce psaume a été composé, son auteur est loin du temple, symbole de la présence même de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Il fait sans doute partie d'un groupe de déportés exilés loin du pays promis par des envahisseurs étrangers. Toutes les célébrations faites dans le temple étaient pour lui d'un grand secours pour simplement entretenir sa communion avec Dieu et en être privé de ses célébrations, le toucher au plus profond de son âme. Aujourd'hui, même si nos cultes ne sont pas exactement le pendant des célébrations faites à l'époque dans le temple, il n'en reste pas moins vrai que la louange communautaire, le partage de la scène et l'écoute de la prédication dans le cadre de nos cultes sont encore nécessaires, et plus qu'on ne le pense souvent, pour réveiller, nourrir notre foi et notre âme. La question est fort simple. C'est de savoir si nous avons la même soif de Dieu pour être présents à nos cultes afin d'être fortifiés dans notre foi. Alors bien sûr, dans cette époque particulière avec le Covid, l'accès à nos cultes est plus compliqué. Mais dans des situations standards, est-ce que nous avons la même soif d'être présents ensemble pour célébrer Dieu. Je me rappelle qu'on m'a expliqué il y a quelques dizaines d'années que des membres de notre assemblée devaient faire plusieurs kilomètres à pied pour venir jusqu'à l'église, au culte. Dans ma propre famille, on m'a aussi dit la même chose. Est-ce que nous avons la même soif de Dieu que nos aïeux? Est-ce que nous sommes prêts à faire le nécessaire pour être présents à nos cultes, pour fortifier notre foi? C'est une question essentielle et importante qui s'adresse à chacun d'entre nous. Comme si cela ne suffisait pas, alors que son âme est déjà abattue, au point de pleurer jour et nuit, car il est loin du temple, le psalmiste doit en plus subir les railleries, les moqueries de ses ennemis, qui lui demandent avec mépris: Où est ton Dieu? Au verset 4. Les ennemis du psalmiste s'efforcent de le persuader que Dieu lui-même l'a abandonné. Sa détresse est redoublée, car ses ennemis font de sa misère un argument pour ridiculiser Dieu et sa foi. Où est ton Dieu? C'est la même question que certains tortionnaires catholiques posaient aux huguenots protestants lorsqu'on les mettait à mort lors du massacre de la Saint-Barthélemy, déclenché le 24 août 1572 à Paris. Où est ton Dieu? C'est une question qui revient dans l'adversité, sous la persécution. Face à une situation tellement difficile, entre son éloignement du temple et les railleries, les moqueries de ses adversaires, le psalmiste se remémore par contraste les fêtes religieuses auxquelles il prenait part, non seulement comme lévite, mais comme directeur de chœur sacré même. Au verset 5. Ce retour sur le passé lui donne de la joie pour le présent et de la confiance dans l'avenir. Ce qui est remarquable, en tout cas dans cette première strophe, c'est que le psalmiste ne soupire pas après la libération divine pour simplement être dans une position plus confortable, mais pour pouvoir expressément louer Dieu, entouré des fidèles dans la ville sainte. Deuxième strophe, verset 7 du chapitre du psaume 42. Je relis. Mon âme est abattue en moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsehar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Avec la deuxième strophe commence une nouvelle plainte. Le psalmiste nous apprend maintenant qu'il est dans l'extrême nord du pays, loin de Jérusalem et du temple qui représentait le cœur de la relation entre Dieu et son peuple à cette époque-là. Il se situe près du mont Hermon, d'après le verset 7. Ce mont culmine à environ 2800 mètres, non loin des sources du Jourdain. On ne sait pas comment il est arrivé ici, mais la profonde tristesse de son poème, de son psaume, suggère fortement qu'il est sur le chemin de l'exil, comme je l'ai déjà dit. Il voit Jérusalem de loin pour un dernier adieu. Il est loin du temple, de la maison de Dieu, mais il continue d'y penser. Comme l'écrit un commentateur d'ailleurs, même quand on ne peut se rendre à la maison de Dieu, rien ne peut nous empêcher de nous souvenir du Dieu de la maison. Alors pendant cette période de confinement liée au Covid, nous avons été empêchés de nous retrouver physiquement en église pour louer Dieu ensemble. Mais Dieu, lui, n'était pas éloigné de nous. Il était toujours avec nous. Et je prie que cette période de confinement n'ait pas été pour nous une période d'éloignement de Dieu, mais qu'au contraire nous avons pu nous recentrer à son écoute, penser à lui comme le psalmiste pense à Dieu à ce moment-là alors qu'il est éloigné du temple. Dans cette situation d'éloignement, le psalmiste clame son malheur qui semble incessant en verset 8. Il dit: L'abîme appelle un autre abîme, au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. On a l'impression qu'un malheur en appelle un autre dans sa vie. Le psalmiste est totalement submergé et même noyé. Il y a un contraste avec la strophe précédente, où il n'y avait plus d'eau, et celle-ci où tout d'un coup il y a trop d'eau. Mais même si son malheur semble submergé, cela n'interrompt pas le dialogue entre le psalmiste et Dieu. Malgré les circonstances qu'il vit, Il continue de louer Dieu au verset 9. Au verset 4, dans la strophe précédente, le psalmiste écrivait que ses larmes étaient sa nourriture jour et nuit. Nous avons ici la réponse à ce verset, au verset 9, dans la seconde strophe. Désormais, le jour est rempli de la bienveillance de Dieu et la nuit résonne de chants et de prières. Il y a une progression dans l'état d'esprit du psalmiste. Malgré tout, le contraste, entre ce que le psalmiste sait de Dieu de par sa foi, son expérience, et ce qu'il vit actuellement, lui fait se poser de nombreuses questions au verset 10. Pourquoi Dieu laisse-t-il son fidèle dans ce malheur? Pourquoi semble-t-il oublié par Dieu? Être oublié par Dieu, c'est quelque chose qui a une grande signification dans l'esprit du psalmiste. C'est comme être mort, selon le psaume 88, verset 6. C'est au milieu des morts que j'ai ma place, comme ceux qui déjà sont couchés dans la tombe, que tu as oublié et dont tu ne t'occupes plus. Toutes ces questions, tous ces pourquoi, ne sont pas forcément le signe que le psalmiste doute de Dieu. Ce à quoi Jésus lui-même a demandé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Dans le malheur, nous pouvons tous nous identifier au psalmiste, je pense. Ce psalmiste qui demande comment un tel contraste peut exister entre la bonté de Dieu et tous les malheurs qu'il subit. Qui demande aussi à Dieu, son rocher, son seul appui, jusqu'à quand il devra subir cette épreuve terrible. Comme au verset 4, le psalmiste redit à quel point le mépris de ses ennemis pour Dieu est dur pour lui. Lorsqu'il lui lance la figure, où est ton Dieu? C'est d'autant plus dur pour lui que lui-même ne sait pas à quoi répondre. Il ne comprend pas pourquoi Dieu semble l'avoir abandonné ainsi. Il le recherche mais n'arrive pas à le retrouver. Il est fatigué des moqueries et de ne pas savoir comment répondre à ceux qui se moquent de lui. Troisième et dernière strophe, au psaume 43, verset 1. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ou l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me guident et me conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Dans cette troisième et dernière strophe, le psalmiste réclame maintenant justice à Dieu, alors qu'il subit à la fois l'exil du pays promis et les moqueries de ses ennemis. Il demande à Dieu de défendre sa cause et de le délivrer. Il souhaite que Dieu fasse justice en sa faveur contre ses ennemis. Dieu est son protecteur, au verset 2, c'est ce qu'il affirme. C'était le thème justement de la prédication de Charlie la semaine dernière, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Église. Le psalmiste appuie son raisonnement, du fait que Dieu est son protecteur, sur le psaume 37, verset 39, qui affirme que le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Dieu est son protecteur, et pourtant le psalmiste se sent rejeté. Le verbe utilisé ici est traduit par « repousser » ou « rejeter » selon les versions, signifie littéralement « prendre en dégoût une chose ou une personne ». Le sentiment du psalmiste, c'est que Dieu qui aurait dû être son protecteur, l'a pris à ce moment-là en dégoût. Rien que ça. Il n'y a pas pire souffrance que d'être rejeté, repoussé, et même pris en dégoût par celui ou celle qu'on aime. Face à son sentiment d'abandon, qui le met au plus bas spirituellement, le psalmiste réclame à Dieu sa vérité et sa lumière pour dissiper tous ses sentiments trompeurs par rapport à la réalité de qui est Dieu. Il cherche la lumière, la vérité de Dieu pour éclaircir ses voies. C'est seulement en mettant ses sentiments trompeurs qui le poussent à croire que Dieu l'a pris en dégoût de côté et en étant fermement attaché à la vérité et à la lumière de Dieu que le psalmiste pourra revenir vers Dieu. Et c'est la démarche progressive qu'il fait par la suite au verset 3 ou au verset 4. Il commence par se diriger vers la montagne sainte, puis vers le temple pour y entrer et aller vers l'autel de Dieu, puis enfin se retrouver devant Dieu lui-même. Arrivé devant Dieu, il pourra enfin le célébrer, l'adorer. On voit que le psalmiste est bousculé dans ses sentiments. Dieu est son protecteur, mais en même temps, il ne comprend pas les circonstances qu'il vit. Dans une telle situation, il se met à douter. Il ne doute pas forcément de Dieu. Il a toujours foi en lui, mais il doute de sa relation avec Dieu. N'est-ce pas une expérience que nous avons en commun avec le psalmiste dans nos propres vies? Je crois qu'en tant que chrétien, peu de choses peuvent nous faire véritablement douter de l'existence de Dieu en tant que tel. Mais les difficultés que nous pouvons rencontrer, les sentiments négatifs qui peuvent nous assaillir, peuvent en revanche nous faire douter de notre relation avec Dieu. Nous pouvons douter de sa bienveillance, de sa protection, de son amour, comme le psalmiste lorsqu'il a composé ce psaume. Alors si on en restait là, ce serait dur de voir cet abattement de l'âme du psalmiste dans chacune de ses strophes. Mais heureusement, il y a ce refrain qui revient par trois fois. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Nous terminons donc en nous arrêtant sur ce refrain qui revient par trois fois dans ce psaume. Ce refrain, je crois, est d'une puissance sans pareille pour celui ou celle qui vient découragement spirituel profond et dont l'âme est abattue. Et je veux retenir quatre grandes leçons de ce verset pour lutter efficacement contre le découragement ou la dépression spirituelle dans nos vies. Première leçon, pour lutter contre le découragement spirituel, il ne faut pas le confondre avec un péché. Ce refrain ne dit pas pourquoi être abattu mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Demande pardon à Dieu pour ton péché. Repens-toi de ton péché. Non. Une âme abattue n'est pas forcément une âme pécheresse. Quelqu'un qui se retrouve dans le plus profond découragement spirituel n'est pas forcément dans une situation de péché. Le psalmiste vit un découragement spirituel profond, mais à aucun moment il ne s'en repent ou il n'implore le pardon de Dieu pour son état d'âme. Le personnage central de toute la Bible a lui-même affirmé en Matthieu 26, verset 38, Mon âme est triste jusqu'à la mort. Si Jésus a eu du tel propos, lui qui a vécu une situation où son âme était abattue et qui pourtant n'a jamais péché, alors c'est bien la preuve, la démonstration que le découragement spirituel, le fait d'être abattu dans son âme, n'est pas un péché en soi. Cette situation n'est pas une situation de péché, ce ne veut pourtant pas dire qu'il ne faut pas réagir et qu'on peut attendre passivement que ça passe. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, le psalmiste, s'il ne demande pas pardon à Dieu pour être dans cet état, lui demande quand même de l'aider et de le secourir. Il est conscient qu'il doit lutter contre ce découragement spirituel. Deuxième leçon. Lutter contre le découragement spirituel, il faut nous confier en Dieu. C'est justement cette deuxième idée. Le psalmiste cherche son espoir d'abord et avant tout en Dieu et pas dans de possibles meilleures circonstances de vie. Pour sortir de son découragement, il n'exprime pas simplement un pieux optimisme que tout finira bien par s'arranger, mais justifie son espérance parce qu'elle se fonde sur les promesses de Dieu. Il s'encourage à garder confiance en l'Éternel. Et Paul écrit fort justement en 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Comme le dit un commentateur, l'antidote au désespoir est de se souvenir de Dieu, de ce qu'il a fait et peut encore faire. Troisième leçon. Pour lutter contre le découragement spirituel, il nous faut nous rappeler les vérités de l'Évangile. On combat aussi un tel découragement en nous prêchant à nous-mêmes la vérité sur Dieu et l'espérance future qu'il nous promet. Nous devons nous diriger en nous appuyant sur les vérités bibliques plutôt que sur nos sentiments, impressions liées à des circonstances de vie. Lorsque nous sommes abattus spirituellement, il nous faut lutter en saisissant pleinement les promesses de Dieu pour nous. Il nous faut continuer à croire à ses promesses, nous les rappeler, garder notre espérance en Dieu. Au lieu de rester abattus à cause de situations subjectives, il convient de nous rappeler les vérités objectives de la parole de Dieu à propos de notre espérance et de notre salut. Pour celui qui est né de nouveau en Christ, voici quelques vérités. Christ est mort pour moi. Il m'a donné son esprit. Je suis un enfant de Dieu. Mon Sauveur règne. Il m'aime. Le péché et les ténèbres vont disparaître éternellement. En Christ, je suis déjà dans la gloire. Voilà quelques précieuses vérités à nous souvenir pour ne pas être conduits par nos sentiments subjectifs, mais pour être conduits par la vérité objective de la parole de Dieu. Quatrième et dernière leçon, pour lutter contre le découragement spirituel, il nous faut reprendre les commandes de notre âme. On voit que le psalmiste se parle en lui-même. Il parle à son âme. Il reprend les rênes pour faire changer de cap à son âme, qui est abattue vers une âme qui garde son espérance en Dieu. Le psalmiste arrête d'écouter son âme abattue pour se parler à lui-même, pour s'encourager au moyen de la parole de Dieu. Nous devons parler à notre âme au lieu de la laisser s'adresser à nous. Il ne s'agit pas de discuter avec son âme en lui faisant simplement quelques suggestions, mais de reprendre les rênes. Il faut commander à notre âme. Martin Lloyd-Jones a écrit dans son livre intitulé « La dépression spirituelle » ces quelques mots qui, je pense, sont fort importants. Avez-vous réalisé que la plus grande partie de votre malheur dans la vie est due au fait que vous écoutez au lieu de vous parler à vous-même? Prenez ces pensées qui vous viennent à l'esprit au moment où vous vous réveillez le matin. Vous n'en êtes pas à l'origine, mais elles se mettent à vous parler. Elles vous rappellent les problèmes d'hier, etc. Quelqu'un est en train de parler. C'est votre « moi » entre guillemets qui vous parle. Le traitement de cet homme, dans psaume 42, était le suivant. Au lieu de permettre à ce « moi » entre guillemets de lui parler, cet homme commence à se parler à lui-même. « Pourquoi être abattu, mon âme » demande-t-il. Son âme le déprimait, l'écrasait. Alors il se lève et dit « moi, écoute-moi un instant, je vais te parler. » Il parle à son âme. En conclusion, nous pouvons tous connaître en tant que chrétiens une profonde dépression spirituelle où notre âme est particulièrement abattue à l'image de l'auteur des psaumes 42 et 43. Si cela nous arrive, alors souvenons-nous des précieux conseils que le psalmiste nous donne ici pour lutter contre ce découragement spirituel. D'abord, ne confondons pas avec une situation de péché. Confions-nous en Dieu et pas dans les circonstances. Rappelons-nous les vérités objectives de l'Évangile au lieu de croire à nos sentiments subjectifs. Et enfin, reprenons les commandes de notre âme en lui parlant avec autorité. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, qu'il nous parle encore. Amen.